pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique romaine pour la fête de l'Épiphanie. Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Or voici que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem. Ils demandent :
Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui.
En apprenant cela, le roi Hérode est pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondent :
À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. »
Alors Hérode convoque les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile est apparue. Puis il les envoie à Bethléem en leur disant
« Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. »
Sur ces paroles du roi, ils partent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précède. Elle vient s'arrêter au-dessus du lieu où l'enfant se trouve. Quand ils voient l'étoile, ils éprouvent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils voient le petit enfant avec Marie, sa mère. Tombant à genoux, ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur coffret et lui offrent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Récits historiques ou pieuses légendes relevant du folklore? Quelles leçons de choses pouvons-nous tirer aujourd'hui de ce texte de Matthieu?
Alors regardons toujours le contexte. Nous sommes encore dans les deux premiers chapitres de l'évangile de Matthieu qui sont un récit de l'enfance de Jésus. À la différence du corps principal de l'évangile, ce corps principal qui va du baptême à la résurrection et qui n'a été mis par écrit qu'après avoir été transmis oralement pendant peut-être de longues années, les récits de l'enfance, eux, sont d'abord des textes écrits. Ils l'ont été, bien sûr, après la résurrection. Et c'est avec la foi en Jésus Seigneur qu'ils veulent éclairer le mystère Jésus, la dimension divine de sa personne. Le premier chapitre de Matthieu a tracé une généalogie symbolique de Jésus le Christ. Puis Matthieu a décrit l'annonce de la conception de Jésus qui a été faite à Joseph. Ce qui a été engendré en Marie vient de l'Esprit-Saint. Et nous voici à notre passage qui retrace la visite des mages à l'enfant qui vient de naître.
Nous avons vu se lever son étoile.
Il faut bien avouer que cette histoire d'étoile et de mages peut nous sembler relever du merveilleux. Et cela même s'il y a de nos jours des experts en astronomie qui s'efforcent de trouver des fondements scientifiques à cette histoire d'étoile. On invoque la conjonction dans le ciel de Jupiter et de Saturne, ou bien le passage d'une comète. Même si cela était vrai, ce n'est pourtant pas là que se trouve l'essentiel du message de ce récit. Ici, c'est la dimension spirituelle de l'événement qui est sa vraie réalité. Et cette réalité spirituelle est avant tout une lumière pour les croyants. C'est la prophétie d'Isaïe qui se réalise pour eux.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu l'empire sur les épaules.
Matthieu fait peut-être aussi allusion à un passage du livre des Nombres.
Une étoile monte, elle est issue de la lignée de Jacob, un sceptre surgit de la maison d'Israël.
en Orient, l'étoile, c'est le signe des dieux. Et le sceptre, bien sûr, c'est le symbole de la royauté. Ce texte des Nombres vise probablement le jeune David, alors qu'il avait été vainqueur des Moabites. Il est de la tribu de Juda, mais il va aussi devenir roi de la tribu d'Israël. Eh bien, au long des siècles, ce texte des Nombres va être interprété en fonction de la descendance de David dans laquelle doit être choisi le roi Messie. Ainsi, 250 ans avant Jésus, les traducteurs de la Bible en grec vont écrire, traduire de cette façon ce verset.
C'est de Jacob que se lève une étoile, c'est d'Israël que surgira un homme.
On le voit, si on se rappelle la traduction, le texte précédent, ici maintenant l'homme remplace le sceptre. Le testament des 12 patriarches, qui est un texte contemporain de Jésus, va voir dans l'étoile la personne même du Messie. Les interprétations araméennes de la synagogue, elles, vont changer l'étoile par le roi.
Un roi doit se lever issu de la maison de Jacob. Un libérateur et un chef se lèvera de la maison d'Israël.
Rappelons aussi qu'en 135 après Jésus, un des chefs de la rébellion contre Rome se fera appeler Bar Kokhba, ce qui signifie « fils de l'étoile », et cela pour signifier son aspiration à être Messie. Alors, de toutes ces petites annotations, on voit qu'il y a un lien très fort entre l'étoile et le Messie. D'ailleurs, de nos jours, nous disons aussi de quelqu'un de célèbre qu'il est une star, une étoile. L'époque de Jésus, tant chez les Juifs que chez les Grecs, parlera volontiers de l'étoile du prince. Et pour ceux qui connaissent le chant du Benedictus en Luc, eh bien, on retrouve cela dans sa description du Messie.
C'est l'effet de la bonté de notre Dieu. Grâce à elle, l'astre, le vent venu d'en haut, nous a visités. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Mais toi, Bethléem.
C'est une donnée des récits de l'enfance, en Matthieu comme en Luc, que Jésus est né à Bethléem et qu'il est de la descendance de David. On sait que la famille de David est originaire de Bethléem. Un prophète du 8e siècle avant Jésus, Michée, a chanté la gloire de ce petit bourg de Bethléem.
Mais toi, Bethléem, Ephrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur. Il sera grand jusqu'aux confins de la terre. Lui-même, il sera la paix.
Par ces paroles, Michée tentait alors de rassurer le peuple devant la menace assyrienne, en les assurant de la venue d'un roi, un roi qui serait selon le cœur de Dieu. Eh bien, au long des ans, les interprètes de la synagogue, lorsque l'on lisait ce texte de Michée, l'ont toujours compris comme décrivant le Messie.
C'est de toi, Bethléem, que doit sortir le Messie pour exercer son pouvoir sur Israël, lui dont le nom est désigné depuis le principe, depuis les jours du siècle.
Si Michée avait dit que Bethléem était trop petite pour être comptée comme une ville, Matthieu, lui, va reprendre le texte, mais en le modifiant.
Bethléem, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le pasteur d'Israël.
Le même texte de Michée évoque aussi celle qui doit enfanter. C'est pourquoi Dieu les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Eh bien, cela peut aussi évoquer un texte d'Isaïe au chapitre 7, où il est dit « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils ». Eh bien, si ce sont les experts juifs qui citent les écrits sacrés, ce sont des païens qui vont les prendre au sérieux. En effet, les chefs des prêtres et les scribes ne bougent pas. Quant à Hérode, il se sert bien sûr des mages, mais par crainte de voir un Messie se lever qui pourrait lui ravir le trône, ce trône qu'il tient de sa complicité avec Rome. Hérode lui-même, étant iduméen, ne pouvait pas prétendre au titre de roi des Juifs. La suite d'ailleurs de notre récit dira la cruauté d'Hérode qui fera périr les nouveau-nés de Bethléem. Et si ce fait ne trouve aucun écho dans les chroniques du temps, dans les écrits des historiens de l'époque, il se peut pourtant que cet événement ait existé, à moins qu'il ne soit inspiré de la légende de la naissance de Moïse qui rapportait un songe du Pharaon. Un enfant en effet allait naître chez les Hébreux qui ruinerait l'Égypte. C'est pourquoi le Pharaon décréta l'extermination des nouveau-nés des Hébreux. Mais je disais que ce texte peut être aussi historique parce que on connaît la cruauté d'Hérode, qui craignait tellement de possibles rivaux qu'il n'a pas craint de faire mettre à mort, entre autres, une de ses épouses et trois de ses sept fils. On disait qu'il valait mieux être le cochon d'Hérode que son fils, en jouant sur les mots grecs où cochon se dit ous et fils ouios. Enfin, notons que ce refus de Jésus par ceux qui résident à Jérusalem anticipe déjà la passion où Jésus sera mis à mort dans la ville sainte. Sur la croix, en effet, on trouvera l'écriteau « Voici le roi des Juifs ». Et les Juifs le tourneront en dérision. Ils se moqueront de ce crucifié roi. Mais ce seront alors des païens, les gardes romains, qui s'écrieront « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ».
Des mages venus d'Orient.
Cette brève indication a donné lieu à toutes sortes de traditions plus ou moins légendaires. Combien étaient-ils, ces mages? Eh bien, l'Évangile n'en dit rien. On les décrit comme étant deux, sur une fresque du cimetière de Saint-Pierre à Rome, ou trois sur un sarcophage du musée du Latran, ou quatre au cimetière romain de Sainte-Domitille, ou même 8, 12 dans certaines traditions syriennes ou arméniennes. Mais le nombre de trois est le plus fréquent. Peut-être à cause des trois sortes d'offrandes, l'encens, l'or et la myrrhe, ou bien parce qu'on en a fait le représentant des trois grandes races humaines. Ce n'est qu'au 7e siècle qu'on voit apparaître leurs noms, Melchior, Gaspard, Balthazar. On les dit rois, mais cela semble sans fondement historique, et c'est peut-être sous l'influence du psaume 72.
Les rois de Tarsis et des îles lui rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba lui feront offrande.
Dans l'art chrétien, il n'apparaît jamais avec des attributs royaux, mais ils sont plutôt vêtus comme des nobles persans.
D'où viennent-ils?
Eh bien, peut-être justement de Perse, à moins que ce ne soit de Babylone, d'Arabie, d'Égypte, d'Éthiopie. Il y a davantage pourtant de présomptions pour les faire venir de Perse. En effet, les mages persans ne sont ni des prestidigitateurs, ni des astrologues, ni des magiciens. Selon l'historien Hérodote, ces mages formaient une tribu, la tribu de Médie, qui devint ensuite une caste sacerdotale, qui était dédiée au culte de Ahura Mazda. Et tous les mages n'étaient pas prêtres, mais tous les prêtres devaient venir de cette tribu. C'étaient des sages, qui avaient une forte influence sur les empereurs, aussi bien sur les empereurs assyriens que chaldéens et mèdes. Des auteurs latins rapportent qu'en 66 après Jésus, des mages perses sont venus à Rome, suivant ce que leur disaient les astres, afin de pouvoir honorer l'empereur Néron. La religion, née du prophète iranien Zarathoustra, autour du VIe siècle avant Jésus, enseigne l'existence de deux principes éternels, Ahura Mazda, qui est le bien, et Enra Maniu, qui est le mal. Ces deux forces luttent pour la domination du monde, mais bien sûr leur lutte finira par la victoire du bien. Une victoire qui, selon leur coutume, sera due à l'appui d'un allié. Selon cette tradition religieuse, cet allié serait la vérité incarnée et il devrait naître d'une vierge qu'aucun homme n'aurait approchée. Eh bien, c'est peut-être cet allié que les mages vont identifier avec le roi Messie des Juifs. En Israël, on attend en effet alors avec beaucoup d'impatience ce roi des Juifs qui doit naître. Tacite, un historien romain, va souligner dans ses écrits le fanatisme des combattants juifs lors de la guerre de 70.
Beaucoup étaient persuadés de ce qui était dit dans les livres anciens des prêtres, à savoir qu'en ce temps, l'Orient devait exercer la suprématie et que des hommes venus de Judée devaient dominer le monde.
Alors bien sûr, les Romains vont comprendre ces oracles comme désignant les empereurs Vespasien et Titus. Mais pour les Juifs, ces oracles sont l'annonce que leur roi Messie doit venir. Les mages viennent sans doute les rejoindre dans cette attente d'un homme venu de Judée. Tradition juive et tradition païenne se rejoignent peut-être ici pour découvrir le roi Messie. Nous avons vu son étoile, et cette étoile va les guider et les amener jusqu'à cette maison où ils vont voir l'enfant.
Nous avons vu.
Déjà dans le récit de Luc, on nous disait que les bergers voient le nourrisson posé dans la mangeoire et qu'ils glorifient Dieu pour tout ce qu'ils ont vu. Évoquons aussi la première lettre de Jean.
Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, nous vous l'annonçons. La vie éternelle s'est manifestée à nous. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous vivions par lui.
Oui, ce que nous avons vu de nos yeux. Voilà l'épiphanie de Dieu. On sait que le mot épiphanie est un mot grec francisé qui veut dire manifestation. Eh bien, voilà l'évangile, la merveilleuse nouvelle, la stupéfiante nouvelle d'une épiphanie divine, d'une manifestation divine. Dieu se fait voir en Jésus de Nazareth. Un humain comme nous est l'icône, l'image parfaite de Dieu. Dieu, l'Éternel, celui qui est dans la hauteur des cieux, invisible à nos yeux, celui que nul ne peut voir sans mourir, comme le dit la Bible. Eh bien, Dieu se fait voir dans cet enfant de Bethléem. Dieu, le trois fois saint, comme il est encore dit en Isaïe, et dont on ne peut parler à moins que des tisons ardents ne purifient nos lèvres. Dieu est entré dans notre histoire. Dieu se fait voir en se nourrissant, couché dans une mangeoire. Petit enfant premier-né d'un jeune couple humble et pauvre. Oui, stupéfiante nouvelle qui est depuis 2000 ans un scandale pour les Juifs. Dieu, l'énergie infinie, l'amour parfait, le créateur de cet univers de 15 milliards d'années, Dieu est entré dans l'histoire humaine il y a 2000 ans dans cet enfant de Bethléem. Stupéfiante nouvelle qui est encore folie pour les païens.
Qui sont ceux qui ont vu?
Oh, il n'y a aucun scribe, ces experts des Écritures. Il n'y a aucun pharisien, ces gens très pieux, fidèles à la Torah. Il n'y a aucun prêtre, ces spécialistes du sacré divin. Pourtant, ceux-là savent où le Messie doit naître. Ils citent l'Écriture qui parle de Bethléem. Pour voir l'enfant Dieu, il n'y aura que des bergers et des mages, des gens qu'on ne s'attendrait pas à voir à cette place. En effet, les bergers sont des gens simples et peu instruits, des ignorants de la Torah, car ils ne savent guère lire, et leur métier les retient au champ lorsqu'on se réunit à la synagogue. Quant aux mages, ce sont des étrangers, des gens qui ne sont pas juifs, qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Ce que nous disent les récits des bergers et des mages, et chacun à leur manière, la vérité qu'ils veulent transmettre, c'est que les individus qui sont en marge de la religion et perçus comme loin de Dieu sont peut-être en réalité les premiers à en percevoir la présence au milieu de l'humanité. Bergers et mages, qui ne peuvent s'approcher du Dieu du temple parce qu'ils sont pécheurs et païens, ceux-là ont libre accès au Dieu dans l'homme venu en humanité. Ceux que la religion a confinés dans les ténèbres sont les premiers à se rendre compte de la lumière qui resplendit, alors que ceux qui vivent dans la splendeur restent dans les ténèbres. Les deux catégories de personnes que les prêtres considéraient comme exclues du salut à cause de leur comportement moral et religieux, ce sont celles-là qui perçoivent les signes de Dieu. Leurs censeurs, eux, ne les perçoivent pas. Bergers et mages ont su voir le signe de Dieu parce que leur cœur était en attente. Aujourd'hui, ceux qui voient Dieu véritablement ne sont peut-être pas ceux que l'on pense. Ce peuvent être des analphabètes, des immigrés qui parlent difficilement la langue du pays, des itinérants, des sans-espoir car sans travail. des gens qui ne fréquentent guère nos églises, ou qui en ont été rejetés, parce qu'ils sont des divorcés ou mariés, ou des personnes homosexuelles. Des jeunes, pleins de questions et de doutes, mais qui sont peut-être avides de spirituel. Des chercheurs de Dieu en dehors de nos sentiers battus. Saurons-nous voir la présence de l'Esprit dans ces hommes et ces femmes? Saurons-nous discerner les signes d'un Dieu qui les interpelle à travers leurs actions de vérité, dans les questions essentielles qu'ils se posent, dans les valeurs qu'ils essaient de vivre? Il y a, aujourd'hui, chez les bouddhistes, cet appel à la bienveillance et à la compassion, notamment avec ceux qui souffrent. Il y a aujourd'hui, chez les musulmans, cette vérité d'un Dieu qui reste le tout autre et auquel on doit soumettre toute sa vie. Il y a, chez certains adeptes du Nouvel Âge, cette espérance d'une unité de toute l'humanité, d'une terre qui soit comme un village planétaire en marche vers un temps de paix et d'amour. Il y a, chez certains agnostiques, une vérité dans la recherche de l'absolu, une soif de spirituel dans leur vie. Écoutons le cardinal Martini, archevêque de Milan, qui disait dans un dialogue avec des incroyants.
« En chacun de nous, il y a le croyant et l'incroyant. Je suis aidé par vos questions à haute voix qui donnent une dimension publique à mes questions intérieures. »
Vos questions, à vous qui n'êtes pas ceux qui normalement sont proches de Dieu, vos questions qui donnent une dimension publique à mes questions intérieures. Noël et Épiphanie nous disent quels sont les yeux qui pourront voir ce Dieu invisible. Dieu n'a pas le visage de la fortune, il a choisi la crèche et la croix. Il n'a pas le visage de la grandeur sociale. Jésus ne fut ni prêtre, ni membre d'une riche famille. Le visage de Dieu dans notre monde sera toujours celui de la simplicité et de la discrétion, parce que seules ces vertus peuvent s'harmoniser avec l'amour véritable. On connaît l'adage « Les oiseaux ont besoin de l'air pour voler, les poissons ont besoin de l'eau pour nager, Dieu, lui, ne se meut que dans l'amour. » Le visage de Dieu ne se trouve et ne peut être reconnu que là où se vit quelque chose engendré par l'amour. Ce n'est pas la perfection morale, ni même la profondeur mystique, ni la grandeur ascétique qui parle le mieux de notre Dieu. Mais c'est le cœur qui s'ouvre à l'amour et en porte les fruits. C'est pourquoi Jésus pourra même affirmer que les prostituées et les voleurs précéderont bien des fidèles dans le cœur de Dieu. Le grand Blaise Pascal disait que tous les corps ensemble, tous les esprits ensemble ne valent pas le plus petit mouvement d'amour. C'est cette passion de nous laisser aimer de Dieu sans relâche et sans frein qui façonne notre cœur et lui permet alors d'aimer avec la même intensité ceux qui sont notre prochain.
Debout, resplendis, elle est venue, ta lumière. La gloire de Dieu s'est levée sur toi.
Cet évangile, annoncé à Jérusalem lors de la libération des Juifs qui étaient exilés à Babylone, cet évangile d'Isaïe, retentit pour nous aujourd'hui. Chrétiens, sommes-nous conscients de cette lumière qui se trouve dans le Christ Jésus, cette lumière qui se trouve dans son message et dans sa présence vivante au milieu de nous puisqu'il est ressuscité? Mais cette joie n'est pas seulement pour nous, elle est pour toute l'humanité. Ne la réservons pas à notre seul profit. Qu'elle soit assez forte en nous pour apporter l'espérance, même dans les pires ténèbres. Dans la situation de chômage que vivent encore trop d'entre nous, dans les conflits ethniques qui détruisent l'image de l'humain, dans ces pires dégradations humaines que sont les marchés d'enfants, notre espérance dans la force de l'amour que Dieu met en nous fait des disciples de Jésus des porteurs de la lumière divine pour le monde. Mais l'Évangile ne sera lumière que s'il est vraiment notre joie. Il y a quelques années, Gaston arrivait du Saguenay pour recevoir une transplantation cardiaque à Montréal. Il n'y connaissait personne et l'attente d'un téléphone lui annonçant qu'un cœur était disponible était terriblement longue dans cette solitude. Heureusement, il fera connaissance d'une communauté chrétienne qui va l'entourer de son affection. Et alors, l'infirmière qui le suit le trouve tellement transformé, transfiguré, qu'elle lui demandera le secret de cette transformation. Comme si la seule et humble attention d'une communauté lui avait déjà donné un nouveau cœur. Comme les mages sont venus chercher dans les Écritures sacrées le sens de l'étoile, il nous faudra chercher, dans la fréquentation assidue et priante de l'Évangile, cette lumière qui va éclairer notre vie quotidienne et qui fera de nous les porteurs de la lumière de Dieu pour notre monde.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous pouvez nous trouver aussi sur Internet. Faites le www.relaismontroyal en un seul mot et sans tiret, relaismontroyal.com.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30.
Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.